Bonjour à tous. Alors, une fois par mois, donc on a une lecture suivie de l'Épître aux Colossiens. Donc on a commencé ça le mois dernier par une introduction que nous avait faite Thibaut Arroy. Et puis maintenant, on va donc suivre sur un découpage du livre. Et donc on va voir aujourd'hui ensemble les premiers versets en fait de cet Épître. Je vais peut-être prier avant que l'on commence. Seigneur Jésus, on a parlé de cette joie que nous pouvons avoir parce que d'abord et avant tout, tu nous as sauvés, tu nous as réconciliés avec toi. Et tu veux qu'on vive une vie, oui, une vie de joie, une vie aussi où on te connaisse mieux. Jour après jour. Et tu vois, c'est ce que l'on va voir dans ces mots que Paul dit aux Colossiens, dans ses encouragements, dans ce qui était vécu dans cette église, et puis dans ce que tu nous invites à travers les mots de Paul à vivre aussi aujourd'hui en 2022, Anthony. Alors, aide-nous, s'il te plaît, dans notre vie collective, dans ma vie personnelle, chacun dans notre chemin, à progresser dans cette joie en se rappelant que toi, tu es au-dessus de toute chose, au-dessus de notre salut, que tu es au bout de la route, dans le ciel, et puis que tu es effectivement auprès de nous chaque jour. Je te prie que ce soit aussi le cas pendant ces moments où on va lire cette parole que tu nous as laissée. Amen.
Amen.
Alors, on va lire le texte ensemble. Je vous lis dans la version second 21. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérants et patients. Alors, je vous propose de faire un peu une lecture un peu cursive, de partager avec vous quelques réflexions. On verra notamment qu'est-ce que l'on peut retenir de la joie et de la reconnaissance à la Paul. Voir aussi, et c'était un thème qui était, qu'on avait annoncé comme central, la centralité de Christ, hein, qu'on voit très vite ici. J'aimerais aussi, je m'attarderai un peu plus longtemps sur la prière de Paul pour les Colossiens, à la fois pour se demander qu'est-ce que c'est que cette volonté, hein, la connaissance de sa volonté, qu'est-ce que ça induit. Et puis aussi vous partager une bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être idiot quand on est chrétien, n'en déplaise à quelques athées triomphalistes, hein, on verra qu'on peut être intelligent et sage, et qu'au contraire, Dieu nous donne une intelligence et une sagesse particulière. Et puis aussi sur la question de l'articulation entre plaire à Dieu et porter des fruits, des œuvres bonnes. Donc voilà, on suivra un peu le texte comme ça. Et puis, à la fin de ce message, j'aimerais vous laissez un peu l'image qui s'est un peu imposée à moi en lisant tout ça. Et cette image, c'est celle un peu de la façon dont un corps se dessine dans un ensemble de relations entre Paul, Épaphras, les Colossiens et Dieu. Cette espèce d'entremêlement de relations qui se dessine déjà de cette introduction et de se dire, bah tiens, comment est-ce que nous, on vit ça? Comment est-ce qu'on peut vivre ça aussi aujourd'hui? Alors, d'abord, je relis vraiment l'introduction de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Alors, un mot d'abord de deux premiers versets, vraiment de cette introduction, de cette salutation, en fait. Et Thibaut en avait dit un mot lors de son introduction, c'était des salutations, en fait, très, très courantes. La forme de cette salutation est très courante, se retrouver dans les courriers de l'époque, on voit des exemples très proches. Donc on est très conforme aux salutations traditionnelles. Bah, finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit, alors que nous, comme on n'est plus du tout dans ce rôle culturel, quand on lit le début, on le lit tout de suite comme c'est la Bible, et c'est vrai, et en même temps, Paul prend une forme qui est très courante, je ne sais pas, aujourd'hui, il serait peut-être intervenu sur le groupe WhatsApp des assemblées de la région. C'est, en fait, la Bible n'est pas hors sol, n'est pas hors culture. Cette salutation est finalement très conforme, mais avec une coloration particulière, peut-être deux colorations particulières. La première, c'est la façon dont les Colossiens sont identifiés. Quelle est leur identité? Comment ils s'adressent à eux? Ben, qui ils sont? Ils sont saints. Alors, saint, ça ne veut pas dire parfait ici, c'est un terme que Paul utilise très souvent, ça veut dire appartenant à Dieu. Donc d'entrée, il les place dans cette sphère-là, le statut en Dieu, et puis leur marche, nos fidèles frères et sœurs. Voilà, ça c'est un petit mot qui rajoute déjà pour dire un peu l'appréciation favorable qu'il a de ces chrétiens. Et puis ils sont frères et sœurs. Très vite, cette dimension de relation, de famille, qu'a créé Dieu et mise en avant. Donc, une coloration particulière sur la façon dont les Colossiens sont identifiés. Et puis, dans cette salutation, j'ai lu quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, dans les salutations juives, on avait très souvent le mot paix, hein, que la paix, hein, j'aime ça avec vous. Dans les salutations grecques, la notion de grâce était assez souvent là. Et en fait, Paul mixe les deux, hein, que la grâce et la paix soient avec vous. Et en mixant ces deux-là, eh bien, il nous dit quelque chose du Dieu qui, juste un peu après cette introduction, on parlera de réconciliation. Et tout de suite, voilà, Paul met en avant ce que je vous donne de la part de Dieu, c'est ce que Dieu vous a donné, la grâce et la paix. Notre Dieu est un Dieu de grâce et de paix. Et on verra juste après, il va développer cette idée, voilà comment Christ à la croix est venu à la fois... vraiment faire cette démonstration de grâce et du coup apporter une nouvelle paix, la paix de cette réconciliation. Ce qui arrive très vite aussi dans cette épître, c'est la reconnaissance. Et je vais dire quelques mots de cette reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est quelque chose que Paul exprime dans beaucoup d'épîtres, hein, cette reconnaissance, cette joie et cette reconnaissance à Dieu. Et on retrouve là des circonstances. La première, c'est que cette reconnaissance, ben, manifestement, elle n'est pas égocentrique parce qu'elle ne dépend pas vraiment des circonstances de Paul qui est certes, sans doute en prison à ce moment-là, en tout cas pas du tout dans des circonstances personnelles très, très envieuses ni très spectaculaires. Mais ce n'est pas forcément un problème. Pourquoi? Parce que sa reconnaissance, elle s'appuie sur ce qu'il voit chez les autres, sur la façon dont il est... empathique aussi et dont il se réjouit de ce qui est fait, de ce qu'il fait ailleurs. D'ailleurs, c'est une reconnaissance aussi, elle n'est ni égocentrique ni égotiste, parce qu'on y reviendra, mais il se réjouit pas seulement d'un travail que lui a fait, du genre, bon, moi je suis en train, mais j'ai fait du bon boulot là-bas. Non, là c'est une église, on verra tout à l'heure, qui a été manifestement suivie, créée par Épaphras, pas par lui. mais il se réjouit pleinement, il est reconnaissant finalement du travail des autres et des conséquences du travail des autres. Donc il n'a aucun problème, Paul, à reconnaître, à valoriser, à partager quelque chose qui n'a pas été fait par lui. Et c'est une qualité, ça. Parce que je pense que vous le vivez peut-être dans vos environnements professionnels ou scolaires. Après, moi, je sais que dans mon entreprise, c'est un énorme chantier, ça. C'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à ce que chacun ne soit pas uniquement préoccupé et heureux de ce qui réussit lui. C'est-à-dire que voilà, il y a 200 personnes à côté, 200 leaders à côté. Il faut que c'est un job de 15 personnes à temps plein pour essayer de dire quelles règles il faut mettre, quelles incitations il faut mettre pour que à un moment donné, je puisse être heureux, coopératif par rapport à ce qui se fait à côté. Ben, en fait, voilà, pour Paul, c'est naturel parce que il travaille comme Epaphras, comme chacun. Il voit ce qui remonte à Dieu, ce que Dieu a fait. Et donc, cette reconnaissance lui vient naturellement. Et puis, cette reconnaissance, ce que je trouve aussi intéressant pour nous, c'est qu'elle n'est pas inspirée ici par quelque chose de très spectaculaire. Ce que dit Paul des Colossiens, pour lequel il est reconnaissant, il ne nous dit pas « je suis reconnaissant du fait qu'il y a eu 52 miracles dans votre église la semaine dernière ». En fait, c'est entre guillemets assez ordinaire. Hein ? Votre foi, votre amour, le fait que vous soyez à Dieu. Donc, c'est aussi intéressant pour ça de se dire que Paul, ce qu'il voit, c'est que dans une foi ordinaire, dans une fidélité ordinaire, dans un amour pratique, c'est quelque chose de magnifique en fait, et qui pour lui le remplit de reconnaissance par rapport à Dieu. Donc voilà, c'est aussi encourageant et pour nous peut-être, pour se dire voilà, quand on vit cela, c'est quelque chose qui est à l'honneur de Dieu, qui amène quelque chose. Ça nous encourage peut-être aussi à justement à être attentif à l'ordinaire et à être reconnaissant pour l'ordinaire, entre guillemets, qui est quelque part extraordinaire. Et puis, pour autant, ça ne veut pas dire que Paul manque d'ambition. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition, parce qu'on le verra après. Paul veut que l'évangile soit dans tout le monde. Il veut que les Colossiens soient remplis de toute de la connaissance de Dieu pour progresser. Donc, être reconnaissant d'ordinaire, ça ne veut pas dire se contenter du minimum. Ces deux choses-là ne sont pas forcément liées. Mais je trouve intéressant que finalement, cette reconnaissance de Paul s'ancre dans une vie tranquille, entre guillemets, juste fidèle avec les gens. Donc ça, c'est un thème qui va continuer à insister dans l'épître sur cette reconnaissance. Là, c'est la sienne. Et puis après, il va dire aux Colossiens, vous aussi, soyez reconnaissants. Alors, au chapitre 2, verset 7, il dira, soyez riches de votre foi en exprimant votre reconnaissance à Dieu. 3:15, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Colossiens 3:17, quoi que vous fassiez en parole, en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose ensuite qui va marteler. Mais c'est peut-être aussi, je trouve intéressant de dire, voilà, il leur montre par l'exemple qu'il faut être reconnaissant, qu'on peut être reconnaissant. Je continue, verset 5, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Ce qui apparaît aussi très vite, donc Paul se tourne d'abord vers Dieu pour dire sa reconnaissance, puis ensuite il se tourne vers les Colossiens, dit voilà, on a appris votre foi, votre amour, et la façon dont l'Esprit vous anime, dans la façon dont aussi vous avez entendu, connu la grâce de Dieu. Et ce qui ressort très vite aussi, c'est vraiment cette centralité de Christ. Et ça, c'est aussi un des thèmes forts de l'Épître. Thibaut nous l'avait partagé. Il y a le thème de la maturité, puis beaucoup le thème de, de Christ, que Christ soit formé en vous. Et là, on voit très vite que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout vient de Christ, de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ces ingrédients de base viennent de lui. Vous avez vu, donc nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous, qui vous est réservée au ciel. Donc, on retrouve la foi, l'espérance, l'amour, trois grands ingrédients hein, que Paul développe là dans d'autres épîtres. Eh bien, cette foi, cette espérance, cet amour, eh bien, elles viennent vraiment de Dieu. C'est cet évangile, c'est cette parole de vérité qui a inspiré l'espérance, qui donne cette espérance. Et cette espérance, eh bien, elle inspire ensuite cette foi et cet amour. Les ingrédients de base, ils viennent bien de Christ. On le verra juste après. Les progrès aussi, la sagesse, la volonté, ce qu'on verra après, doit encore venir de Christ. Et puis, viennent aussi de Dieu ces gens qui ont été des intermédiaires. Epaphras, il est serviteur de Christ. Paul, il est apôtre, il est envoyé. D'accord ? Donc, on voit vraiment que les personnes qui portent le message, Paul, Epaphras, puis le message lui-même, l'évangile, et Dieu incarné, et puis ce que ça produit chez eux, c'est la foi, l'espérance, l'amour, tout vient de Christ. Et c'est pour ça que Paul, quand il voit ce qui arrive chez les Colossiens, avant de leur dire bravo, il dit merci à Dieu, en fait. Voilà. Ou plutôt, c'est en disant merci à Dieu qu'ils se félicitent de ce qu'ils sont en train de vivre. Dans ces versets aussi, on voit, voilà, vous en avez entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. On a des petites incises, je trouve, intéressantes dans ce passage sur la dynamique un peu de l'évangile. Et Paul a vraiment à cœur à la fois cette croissance de l'évangile, et cette croissance, elle est à la fois extensive, hein, c'est-à-dire dans le monde entier, tout comme il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier. Alors c'est intéressant parce que est-ce qu'à ce moment-là, l'évangile est dans le monde entier ? Pas tout à fait quand même. Mais quelque part, alors, c'est un peu le monde connu du moment, c'est-à-dire que l'évangile, petit à petit, Paul voit que cet évangile, il est... Et voilà, ça doit être intéressant pour lui de voir que même dans des endroits où il n'est pas allé, justement, mais il se met en place vraiment cette diffusion, cette course de l'évangile. Et donc, c'est un peu emphatique, quoi. C'est dans le monde entier. Et sans doute aussi parce que Paul sait que Dieu va porter cette parole, va porter cet évangile. Et par la foi, par l'espérance, il dit, bah oui, l'évangile, il est parti, il ne s'arrêtera pas. Il ira dans le monde entier. Donc, c'est extensif. Mais c'est aussi... on dit intensif, c'est-à-dire c'est aussi parmi ceux qui l'ont, hein, c'est intéressant. Vous voyez, il dit il porte des fruits et progresse. Donc là, on a l'impression plutôt porte des fruits et progresse, ça veut dire il va dans d'autres endroits, il touche d'autres personnes. Et puis après, il dit c'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire que cette dynamique de porter des fruits, de progresser, c'est pas seulement toucher d'autres territoires, toucher d'autres personnes, c'est aussi parmi ceux qui ont déjà entendu. Comment est-ce que l'évangile porte des fruits et progresse ? Donc, il y a vraiment ces deux dimensions. Et donc, ça nous interroge aussi, nous, personnellement ou collectivement. Est-ce que l'évangile porte des fruits et progresse ici, dans notre communauté ? Est-ce qu'il porte des fruits et progresse en moi ? Et cette dimension plus intérieure, on peut aussi la rapprocher du coup de la façon dont ils ont reçu l'évangile. Vous voyez, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras, d'autres traductions, il a vraiment dit il vous a appris l'évangile. Donc, ça c'est. Il y a une notion d'instruction, vraiment, hein, qui est aussi intéressante. Il y a quelque chose dans la façon dont ils ont entendu et connu, hein, on voit aussi entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras. On voit bien que cet évangile, c'est pas seulement un engagement émotionnel, mais c'est aussi un peu un cheminement, quelque part. Hein. On sent qu'ils ont entendu, et puis petit à petit, ils ont appris quelque chose, ils ont progressé là-dedans, ils se sont forgés une conviction. On dit souvent que dans le... dans le salut, il y a une composante de volonté, une composante d'émotion, puis une composante intellectuelle de conviction. Et on voit que ces trois choses-là un peu ont été à l'œuvre un peu parmi les Colossiens. Donc cette réception de l'Évangile, elle se fait aussi, et on verra après, peut-être chez certains, un peu progressivement, petit à petit, on entend, on connaît, on progresse dans ce message-là. Alors, je voulais ensuite passer un peu plus de temps sur la prière que fait ensuite Paul pour les Colossiens. Je relis. « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. » Et puis après, on verra un peu plus les versets suivants après. Donc, peut-être faire une première réflexion sur de quelle volonté est-ce que Paul parle. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu dont on parle ici? On dit souvent, j'aimerais bien connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Alors parfois, on parle de volonté, d'une volonté spécifique, c'est-à-dire que ce que Dieu veut que moi je fasse, que Pierre-Yves fasse à un moment particulier de ma vie. Et puis, il y a aussi, ça peut être aussi une question de volonté, on appelle ça une volonté générale, c'est-à-dire tous, Dieu veut que nous fassions ou ne fassions pas un certain nombre de choses. Hein. On a un certain nombre de commandements, d'amour, mais aussi d'autres commandements qui sont des commandements, un peu une volonté générale et des choses auxquelles Dieu appelle tout homme. Et puis on peut aussi lire volonté plutôt sur ce que Dieu veut, son plan, hein, la façon dont sa volonté globale, un peu son projet global et son plan. Donc selon les commentateurs et selon un peu l'interprétation, on peut et il y a sans doute différentes les différentes dimensions peuvent sans doute être vraies, hein, quand on dit que ça y est. Mais l'idée d'être rempli de la connaissance de sa volonté, et quand juste après Paul va poursuivre en leur expliquant un peu ce mystère, qu'est-ce qu'est le Christ, on peut plutôt pencher pour l'idée que c'est connaître la volonté de Dieu au sens son plan global, mieux connaître, de plus en plus connaître ce que Dieu avait prévu en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il visait pour l'humanité, pour tous, sa volonté de salut, ce projet global. Mais dans tous les cas, ce que je trouve intéressant, c'est intéressant de se rappeler que deux choses, c'est que Dieu a une volonté. Pour Paul, il est très clair que Dieu a une volonté. Alors ça nous paraît peut-être évident parce qu'on est dans un rapport avec un Dieu personnel et tout ça, mais c'est pas forcément vrai de toutes les religions, de toutes les relations avec tous les dieux. Les hommes, parfois, ont une vision, disent « Ok, il y a un Dieu, mais Dieu n'a pas vraiment une volonté pour moi, pour le monde. C'est un Dieu distant ou un Dieu absent de ce qui se passe. » Et c'est pas du tout le Dieu auquel nous croyons. C'est pas du tout le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il a vraiment une volonté. Il a une volonté d'amour, il a une volonté de salut. Il a aussi, du coup, une volonté aussi pour moi. Donc, et on voit, hein, comment Paul finalement veut convaincre les Colossiens qu'il faut rentrer dans cette connaissance-là, rentrer dans cette relation que Dieu voulait. Donc, premièrement, Dieu a une volonté, il n'est pas absent, il n'est pas indifférent. Et la deuxième chose, c'est que cette volonté de Dieu, du coup, logiquement, pour Paul, elle débouche sur une mise en mouvement, quoi. Puisque Dieu veut quelque chose, il va se passer des choses. Puisque Dieu veut quelque chose pour nous, il y a des choses à faire. Il y a des choses qui sont devant vous. Et donc ça, c'est cette marche qu'il met devant eux. Et cette marche, il leur propose de la faire, ou en tout cas, il leur dit qu'elle va pouvoir être faite en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, je voulais juste je trouvais ça intéressant, hein, toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, Paul met en avant ces deux caractéristiques, être sage, être intelligent. Donc, Paul n'abandonne pas la sagesse et l'intelligence aux athées. Quoi. La contrepartie d'être chrétien, c'est pas accepter d'être idiot parce que de toute façon, il y a Dieu et je suis ce qui se passe et je réfléchis plus. Quoi. Paul nous dit, bah non, au contraire, il y a une sagesse, il y a une intelligence, vous allez pouvoir être rempli de cette sagesse et de cette intelligence. Mais cette sagesse, cette intelligence, ce qui est vrai, c'est qu'elles ont un adjectif, elles sont spirituelles. Donc il y a bien un peu une certaine distance, une différence entre la sagesse et l'intelligence humaine et puis cette sagesse et cette intelligence spirituelle. Et quelles sont ces différences ? Ben, je pense que l'essentiel, c'est que l'esprit met dans l'équation ce que nous, comme hommes, on ne peut pas ou on ne veut pas concevoir. Un Dieu infini, le mystère de la croix, d'une puissance qui s'est faite faiblesse, la conviction de péché. Tout ça, c'est des choses qu'une intelligence humaine rationnelle ne va pas concevoir, ne va pas mettre dans l'équation et que l'esprit... Mais du coup, ces choses-là, c'est finalement une source de savoir, un éclairage supplémentaire, en fait. Quelque chose qui nous fait voir les choses différemment, qui nous fait comprendre les choses différemment, mais qui pour autant, après... n'empêche pas qu'on raisonne en toute intelligence et en toute sagesse. Et alors, j'ai poussé le truc en essayant d'aller voir les définitions du Larousse sur la sagesse et l'intelligence. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai fait un peu l'exercice de me dire, bon, si je lis ça, qu'est-ce qui, en fait, peut être commun entre la sagesse telle qu'en parle la Bible, l'intelligence telle qu'en parle la Bible, et où est-ce qu'on peut avoir des points de tension ou de différence ? Alors, je ne prétends pas que ce soit... c'est sans doute sujet à discussion, mais en gros, tout ce qui est en vert, on voit à peu près les couleurs, oui, à peu près. Tout ce qui est en vert, c'est je trouve, des choses qui collent très très bien à ce que serait une sagesse et une intelligence aussi spirituelle. Ce qui est en rouge, vraiment ce qui s'en différencie. Et puis, ce qui est en orange, des choses où peut-être... des choses qui peuvent nous faire réfléchir parce que ça nous dit comment est-ce que je fonctionne un peu différemment, comment est-ce que Dieu me demande de fonctionner différemment. Donc pour la sagesse, par exemple, la sagesse, il y a un peu plus que quatre sens, mais je vous ai laissé les quatre principaux. Sagesse, c'est quoi ? C'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique, comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Bien oui, la sagesse de Dieu, c'est bien un idéal pour nous supérieur de vie. Par contre, elle n'est pas proposée par une doctrine morale ou philosophique. Nous, on pense qu'elle vient de Dieu. C'est une vraie... Puis la sagesse, c'est aussi la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Ça, je pense, c'est très proche de ce que Paul a dit aux Colossiens. Inspiré par Dieu, Dieu veut qu'on soit comme ça. Ou qu'on soit aussi qualité de quelqu'un qui agit avec prudence, modération, caractère de son action. Et donc, ça aussi, oui, bien sûr, cette sagesse-là, on est amené à la voir, influencée différemment, mais on est amené à la voir. Et puis, vous voyez que dans le Larousse, on a quand même ce quatrième sens qui est, en théologie, discernement dans les choses de l'ordre surnaturel. Eh bien, oui. C'est qu'on discerne quelque chose par la foi, par l'esprit, qu'en tant qu'homme, on ne discernerait pas. Et ça, c'est une sagesse. Sur l'intelligence, ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors, je ne vais pas vous trop découper. On aurait pu mettre en orange que le conceptuel et rationnel. C'est-à-dire, oui, vous voyez, c'est la première chose qu'on met en main. Ben, rationnellement, je vais tout capter, en fait. Et bien là, évidemment, on a une différence parce que non, à un moment donné, notre rationalité d'humain, elle est à la fois limitée et à la fois, on l'a dit, on l'a rappelé ce matin, biaisée par le péché aussi. L'intelligence, c'est aussi l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Bah oui, là, je crois qu'on est... Alors, on peut se retrouver là-dedans. L'intelligence, personne considérée dans ses aptitudes intellectuelles en tant qu'être pensant. C'est une intelligence supérieure, il y a aussi ça, un crack. Alors là, non, l'intelligence, selon Dieu, on n'est pas appelé à dire « Ouais, mais moi, j'ai une super intelligence spirituelle. Franchement, je défonce tout le monde en intelligence spirituelle. Ça ne marche pas bien, vous voyez que c'est... » Voilà, parce qu'elle nous est donnée, en fait. Et puis après, on retrouve quelque chose, qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte son comportement à ses finalités. Ben oui, dans... est-ce qu'on a le souci de comprendre ce que Dieu veut nous dire, de réfléchir, de connaître et d'adapter notre comportement à nos finalités ? Ça, c'est une intelligence dans laquelle on peut se retrouver. Et capacité de saisir une chose par la pensée ? Oui, sauf que justement, et c'est ce que dit Paul, il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir. Donc voilà, l'exercice a ses limites, mais je trouvais intéressant de dire... Paul ne dit pas, c'est pas parce que vous marchez par l'esprit qu'en fait disparaît tout processus d'adaptation de comportement aux finalités, de mieux connaître et mieux réfléchir, etc. Non, c'est pas ça. Mais par contre, bien avoir en tête que cette sagesse, cette intelligence, Paul a dit, c'est pas seulement un livre. Je prie pour que vous l'ayez et je prie pour que vous connaissiez d'abord la volonté de Dieu. Et de tout ça va découler d'autres choses. Alors, voilà, soyez remplis de la connaissance de la volonté, en sagesse, en intelligence spirituelle. Je disais tout à l'heure, il y a une mise en mouvement derrière. Pourquoi ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Je voudrais vous proposer de réfléchir sur l'articulation entre marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Donc, ce qu'on voit... c'est qu'il y a bien un lien logique, séquentiel, entre alors, être digne du Seigneur, être agréable à Dieu, lui plaire entièrement, et puis vous aurez des œuvres bonnes pour fruits. Donc ça, c'est important. Et par rapport à ça, je réfléchissais, je me disais peut-être qu'il y a deux... alors désolé si j'ai un état d'esprit négatif, hein, mais peut-être deux alertes, où je me disais deux erreurs qu'on pourrait faire. La première, c'est d'inverser la séquence. C'est de se dire, bah, dès lors que je fais quelque chose, dès lors que quelque chose a manifestement un bon fruit, que c'est une œuvre bonne, bah, c'est nécessairement agréable à Dieu. Vous voyez, d'inverser la séquence. Et ça, peut-être il y a un risque là-dedans. En fait, on ne peut pas considérer les choses comme bonnes sur la base de ses seuls effets ou non-effets sur les autres, quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. On dit, voilà, si c'est quelque chose qui ne fait pas de mal, si c'est quelque chose qui va dans le sens de l'amour, je ne vois pas comment Dieu pourrait être contre. D'accord ? Dans un sens, peut-être, vous allez me dire, c'est vrai, comment pourrait-il exister une tension si Dieu est bon, donc normalement, tout ce qui est amour, tout ce qui est bon, ça doit venir de Dieu. Donc, voilà. Et donc, pourquoi une tension ? Peut-être si j'étais Dieu, si j'étais capable de voir toutes les choses, toutes choses dans l'intime, toutes choses dans les effets collatéraux, toutes choses dans le temps, etc. Si j'étais capable de ça, peut-être qu'il n'y aurait pas de tension entre ce que je vois comme bon et ce qui est agréable à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, peut-être que parfois, nous, on voit les choses à court terme et on se dit « Ah ben, c'est quelque chose de bon », mais on ne voit pas les choses comme Dieu les voit. Ok ? Et donc, on ne peut pas déduire du seul fait que des fruits soient bons, que c'est forcément agréable à Dieu, et notamment si on a des choses dont Dieu nous dit dans la Bible qu'elles ne lui sont pas agréables, alors elles ne lui sont pas agréables. Et c'est ça le premier critère. Et on n'a pas à réécrire ce qui est agréable à Dieu en fonction des fruits. Et voilà. Et donc, peut-être qu'il faut peut-être parfois accepter cette tension, ou en tout cas... ce qui est clairement exprimé, notamment comme désagréable à Dieu, ne peut pas être évacué ou racheté parce que nous estimons être un bon fruit. Ça me semblerait être un renversement qui n'est pas selon le texte. Mais il me semble que symétriquement, il y a un peu un autre risque par contre, c'est que vous savez, de toute façon, moi je fais ça pour le Seigneur, je fais ça pour Dieu, c'est agréable à Dieu, donc du coup après, les conséquences... S'il y a des effets très néfastes sur les autres, mais j'ai fait ça pour plaire à Dieu, donc il n'y a plus rien à dire. Là, il faut aussi se poser la question quand même, d'accord ? Parce que, évidemment, vous allez me dire, c'est un peu point Godwin, un peu extrémiste, mais il y a des gens qui ont mis des Boeing dans des tours en tuant 3000 personnes parce que c'était pour Dieu. Ce que ça nous dit ici, c'est que quand vous êtes agréable à Dieu, ce qui est naturel, c'est qu'il va y avoir des fruits qui sont positifs. Il y a très généralement un accord entre le fait de vouloir plaire à Dieu et le fait d'avoir des fruits positifs autour de soi. Il y a beaucoup de versets qui nous disent, je pensais notamment, vous avez peut-être la question de fruits, dans Matthieu 7, hein, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et peut-être j'aime encore plus fort, je trouve, le verset dans Romains 14, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, aussi, je pense que si parfois on se borne, on se crispe dans des choses où on dit « Ah non, mais je fais ça pour Dieu et donc de toute façon, je m'inquiète pas de toutes les répercussions qu'il peut y avoir », ça, c'est un signal d'alerte aussi, hein, parce que a priori, ce que nous dit Dieu, c'est que ce qui lui est agréable est aussi approuvé des hommes. Donc en résumé, le fait de plaire à Dieu, ça doit rester la boussole, la source des œuvres bonnes. On ne peut pas réécrire ce qui plaît à Dieu à la lumière des fruits positifs, mais il y a bien un lien vertueux entre le fait d'être agréable à Dieu et le fait d'être agréable aux autres. Donc attention à ne pas utiliser l'alibi de devoir plaire à Dieu pour justifier des choses qui soient néfastes. C'est des cas qui sont sans doute... où il faut peut-être se remettre en question aussi sur ce que l'on a compris de plaire à Dieu. Dans cette prière aussi, il me semble que ce qui est vraiment mis en avant, c'est un chemin de progrès, en fait, et des cercles vertueux. Donc, notamment, ce que l'on voit, vous voyez, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, vous aurez des fruits et vous progresserez dans la connaissance. Donc, on a un cercle vertueux qui se met en place un peu où vous allez connaître sa volonté, ça va vous donner de la sagesse, de l'intelligence, ça va avoir une marche, des fruits. Et ces fruits, ils vont aussi renforcer votre connaissance de Dieu. Donc on a ce cercle un peu vertueux qui se met en route et qui du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Notamment, vous serez fortifié. Vous serez fortifié. C'est intéressant. L'effet de long terme, c'est la fortification. L'effet de long terme, c'est pas là encore, vous allez faire des œuvres encore plus extraordinaires, vous allez avoir des émotions encore plus fortes, spirituelles, etc. C'est vous allez être fortifié. Ça m'a bien plu, ça m'a bien fait envie aussi, ce mot, d'être fortifié. Là, je trouve, c'est dire, voilà, vous allez être ancré là, ce que vous croyez, ça va être de plus en plus fort, vos convictions, vos comportements, vous allez être fortifié. C'est un beau terme, hein, une belle promesse. Et fortifié par, directement, hein, rien moins que la puissance glorieuse de Dieu, hein, qui va nous fortifier. Et ça va. Et ce thème d'être fortifié, là aussi, hein, il reviendra beaucoup. Thibaut avait mis en avant lors de l'introduction l'importance de la maturité. Et c'est vrai que, voilà, je l'ai cité tout à l'heure, mais dans le deuxième chapitre, verset 7, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. Enracinés, fondés, affermis. Vous voyez, on retrouve vraiment cette idée de fortification. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est pourquoi cette fortification, enfin, quelles sont les finalités ou les fruits. Je ne vais pas dire que c'est paradoxal, mais ce n'est pas les effets peut-être qu'on attendrait le plus d'une fortification. Si je suis de plus en plus fort, je vais être de plus en plus conquérant, de plus en plus dominant, de plus en plus orgueilleux. Là, en fait, on est fortifié pour être persévérant, patient, joyeux. On retrouve un peu, hein, tout à l'heure, on parlait d'une sagesse qui n'est pas la même, de repères qui ne sont pas les mêmes. Vous voyez, quoi, être fort, être puissant en tant que chrétien, c'est être persévérant, patient, et d'être persévérant et patient dans la joie. Et on a rappelé aussi, tu rappelais Ludovic ce matin, voilà, comment être. Du coup, ça veut dire, si je suis fortifié dans tout ce qui m'arrive de compliqué, eh ben, des choses ne vont pas disparaître, je ne vais peut-être pas avoir moi la puissance de Dieu pour faire disparaître les choses. Donc la fortification que me promet Dieu, c'est de m'aider à être persévérant, à être patient dans ce qui peut arriver. Donc pour la dernière partie un peu de... Oui, ça va. J'aimerais vous livrer un peu ce qui m'est apparu comme image un peu globale de ce début d'épître. Parce que quand j'ai commencé à préparer, au début, j'ai un peu râlé en me disant qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur 9 versets d'introduction pendant 35 minutes là, c'est... Et du coup, j'ai essayé de me demander mais qu'est-ce qui se dégage en fait un peu de cette espèce de plongeon dans l'épître un peu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais bien aimé lors de l'intro. Thibaut, alors c'était plutôt à propos de la fin, vous savez, il y a des nouvelles personnelles, etc., des choses comme ça. Et Thibaut nous avait fait remarquer que ces nouvelles, ces noms, c'est un peu ces tranches de vie qu'on a à la fin de l'épître, là, finalement, ça nous montrait que tout ce que disait Paul, c'était pas complètement désincarné, hors sol, c'était inscrit dans des relations qui existaient, dans une vie qui se déroulait, etc. C'était dans la vraie vie, entre guillemets. Et finalement, je trouve que c'est un peu la même chose pour cette introduction. Donc, je vous propose de voir un peu un tableau du nœud de liens, de relations que nous sommes appelés à former en tant que chrétiens. Donc, on voit d'abord, au début, hein, chronologiquement, on voit Paul et Timothée. On n'a pas beaucoup parlé de Timothée, mais voilà, Timothée, il est à côté de Paul. C'est pas l'apôtre, mais il est à côté de Paul, voilà. Et puis, et on voit leur belle relation d'intérêt, d'affection, de prière pour les Colossiens. C'est le début, hein, voilà, ils leur écrivent, ils s'intéressent à eux, etc. Et puis du coup, en fait, à travers ça, à travers l'intérêt de Paul pour les Colossiens, eh ben, on découvre un peu tout ce que font les Colossiens. On voit l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et puis on voit leur foi et leur amour qui est inspiré par cette espérance. Et donc, quelque part, à travers ça, on découvre ce que vivent les Colossiens, ce qu'ils font, ce qui les anime, ce qu'ils vivent de l'Évangile. Et puis après, il y a un triangle qui se met en place parce que, tiens, on apprend l'existence d'Épaphras. Paul dévoile le rôle d'Épaphras, la façon dont il a instruit les Colossiens, dont il les a amenés à l'Évangile. Mais pas seulement, il ne s'est pas arrêté là parce qu'après, il a su tout ce qui se passait puisque c'est lui qui a informé Paul. Après, il informe Paul. Donc, vous voyez un peu le rôle pivot d'Épaphras qui sait tout ce qui se passe ici et puis qui en informe Paul. Et puis, ben, comme Paul est informé, ben, ça lui permet d'intercéder, etc. On a une espèce de triangle de communion, d'encouragement, de croissance aussi qu'on voit là. Mais ce triangle, je trouve qu'on perçoit beaucoup d'amour, de fidélité aussi, mais il ne tourne pas sur lui-même. S'il existe, s'il est rendu vivant, par quoi ? Par... Oui, il a fait plein de flèches, mais je vais vous expliquer. Par vraiment l'action de Dieu, en fait. Hein. Tout au début, on a Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, eh bien, par l'Évangile, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fondé cette espérance. Hein. Il y a l'Évangile qui a fondé l'espérance. Et du coup, c'est bien l'espérance qui a produit la foi, qui a produit l'amour. Et puis, c'est aussi Dieu qui fortifie les Colossiens, on l'a vu. Et puis, c'est aussi l'Esprit qui anime l'amour qui est dans les Colossiens. Et puis, c'est aussi Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, qui a envoyé Paul et Timothée, qui a envoyé Épaphras. Donc, vous voyez que ce triangle-là, ce qui se passait là, ben, toujours au fait au-dessus, on a Dieu, et on n'a pas Dieu qui est absent, on n'a pas Dieu qui est loin, on n'a pas Dieu qui a complètement délégué, mais on a Dieu qui a choisi les intermédiaires, et puis après qui continue à intervenir. Et puis, on a Dieu qui intervient comme Père, par son plan global, qui intervient par Jésus-Christ, qui est cet évangile, cette bonne nouvelle, qui intervient par l'Esprit, qui vient animer cet amour. Donc, vous voyez la façon dont, voilà, dont tout ça... Et quelque part, je trouve que voilà, dans ces versets, on peut lire ça. Et du coup, et je finirai là-dessus, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous, ici, maintenant, à Antony ? Bah, à nous aussi de vivre cet entrelacement d'engagement, d'intérêt réciproque, de communion. Et j'avais juste noté quatre points. Alors, il y en a peut-être d'autres, et puis peut-être que, mais voilà, c'est ceux qui m'ont frappé. J'ai beaucoup aimé le informer. Paul a été informé par Epaphras. Ben, il savait ce qui se passait, en fait. Est-ce que j'informe et est-ce que je suis informé ? Est-ce que finalement je sais ce qui arrive à mon frère, à ma sœur ? Voilà. Est-ce que je partage ça ? Et alors, être informé, vous voyez bien que là, ce n'était pas la radio Rago, hein, parce que informer, c'était de dire comment ils progressaient dans l'amour, de dire comment ils avaient progressé dans la foi, de ce qu'ils étaient en train de vivre, etc. Donc voilà, moi, ça m'a frappé, ça m'a encouragé de me dire, voilà, est-ce que je m'informe, est-ce que je suis informé, est-ce qu'on parle de nos progrès, aussi de nos difficultés, mais pas seulement, en fait, justement, de cet ensemble de choses qui permet, du coup, ensuite, c'est ça, hein, c'est cette information qui est au début de tout, parce que sinon, Paul, il ne saurait pas ce qui se passe à Colosse, il ne saurait rien passer. Et puis, c'est une information, on n'en reste pas à l'information, on voit bien que derrière, c'est la sensibilité d'eux, être sensible à les uns avec les autres. On voit l'intérêt pour ce qui se passe, on voit la prière, on voit l'amour en pratique, donc évidemment, c'est un point clé. Envoyer aussi, être envoyé, on voit que, voilà, envoyé, c'est Paul, c'est l'apôtre, mais pas seulement, c'était aussi Épaphras, là, pour le coup. Et puis peut-être que là, évidemment, c'est envoyé pour créer une église, mais je pense qu'ensuite, Dieu nous envoie chacun, d'une manière ou d'une autre, pour s'apporter des choses. Et je peux être, à un moment donné, envoyé, entre guillemets, être intermédiaire de Dieu pour vous apporter quelque chose, Et puis la semaine prochaine, c'est vous à qui Dieu va me demander de m'apporter quelque chose. Si on est envoyé, si on est intermédiaire les uns pour les autres. Mais on voit que c'est un vrai rôle important, en fait. À certains moments, il y a bien ce rôle d'intermédiaire qui passe, mais intermédiaire au sens un peu bras aussi de Dieu pour faire des choses, partager des choses, encourager, etc. Et puis, le dernier point, c'était un peu justement qu'on ne peut pas s'arrêter au triangle et qu'il ne faut pas oublier toutes les flèches au-dessus, c'est qu'on n'est pas un club. Même si on vivait ce premier, on s'informe, on est là, on est bien ensemble, ok, super, ça tourne comme ça, très bien, c'est chouette, c'est super. Là, c'est un club. Et en fait, ce n'est pas un club, c'est une église. Parce qu'il y a Dieu au-dessus. Voilà. Et donc, de la même façon, se rappeler que Dieu veut infuser l'ensemble de nos actes, de nos relations, et que ce qu'on vit en exergue. Je l'ai beaucoup tourné collectivement, mais vous voyez bien que tout ça, c'est des choses qui se vivent d'abord aussi. Le collectif, là, c'est aussi le fait que individuellement, il y avait ces actes d'amour. La foi, elle n'est pas collective, elle est d'abord individuelle. Et voilà, donc on peut évidemment le prendre à titre individuel. Mais je trouvais intéressant, dans ce début d'épître aussi, de mettre un petit peu l'accent peut-être sur cette dimension collective et sur cet encouragement. Et puis voilà, et bien Paul va s'appuyer sur ses premiers versets, juste derrière, pour ensuite, il va basculer sur ce qu'a fait Christ, un hymne à Christ. Mais voilà, tout ça s'inscrit dans cette histoire, dans ce collectif, dans la manière dont Dieu a construit, impulsé, fortifié l'espérance, la foi et l'amour qui animaient les Colossiens et qui étaient regardés par Paul et qui animaient ensuite la reconnaissance de Paul pour Dieu.